Daf Samer Zayin Amoud Bet, en bas du Hamoud. Rabbi Yochanan a dit que un Baal Keri doit être renvoyé de deux machanot, c'est-à-dire du Machane Shrina et du Machane Leviya comme le Zav. Et la Gemara lui a opposé une Mishnah qui dit que le Baal Keri est comme Maga Sheretz, comme quelqu'un qui a touché un Sheretz. Et la Gemara a compris au départ que la comparaison entre le Baal Keri et le Maga Sheretz, c'était par rapport au machanot, par rapport au camp qu'il doit quitter. Donc de la même manière que celui qui a touché un sheretz ne quitte que le machane shrina, mais peut rester dans le machane leviya, c'est pareil aussi pour le Baal Keri. Et l'agma a repoussé que non, la Mishnah voulait les comparer par rapport à leur touma. De la même manière que celui qui touche un sheretz devient tamé même béonès, c'est pareil aussi pour le Baal Keri qui devient tamé aussi béonès. Mais effectivement, on peut dire que le Baal Keri, comme Rabbi Yochanan l'a dit, doit sortir et du Machane Shrina et du Machane Leviya. Métivé, l'agma objecte, Boel Nida Ketamemet. Donc c'est la suite de cette Mishnah qui dit que celui qui a une relation conjugale avec sa femme Nida, il est comme un Tamemet, comme quelqu'un qui s'est rendu impur au contact d'un mort. Les mailles, par rapport à quoi on les compare? Il est mal et Tumata, si on dit que c'est par rapport à leur Tuma, c'est écrit explicitement dans la Torah et pour le Tamemet et pour le Boel Nida qu'ils étaient tamés pendant 7 jours. Donc puisque c'est écrit clairement dans la Torah, pourquoi est-ce que la Mishnah aurait besoin de le dire? Et la lave les machanotam. Donc n'est-ce pas que la comparaison entre le Boel Nida et le Tamemet c'est par rapport au machané duquel il doit sortir? Que de la même manière que le Tamemet ne sort que du machané Shrina, celui qui a une relation avec une Nida sort aussi uniquement du Machane Shrina, parce que c'est une Touma qui est extérieure, c'est une Touma qui vient du fait que il était au contact avec la Nida. Et même si il a la même Touma que la Nida, celui qui a une relation avec une Nida a la même Touma que la Nida, mais par rapport au Machane qu'il doit quitter, il a le même dîme que un Tamemet. Umide Sefa le Machanotam avait Rechanami le Machanotam. Et puisque la fin de la Mishnah compare le Boel Nida au Tamemet par rapport au camp qu'il doit quitter, donc ça veut dire que la Recha aussi, quand on a comparé le Baal Keri au Maga Sheretz, c'était aussi par rapport au camp qu'il doit quitter. Et donc ça veut dire que le Baal Keri ne quitte que le Machane Shrina et pas le Machane Leviya, contrairement à ce que Rabbi Yochanan a dit. Agma a dit, mi diréa, est-ce que c'est une preuve? Hakedeita, Hakedeita. Chaque partie de la Mishnah parle de ce qu'elle parle, c'est-à-dire que effectivement la comparaison entre le Baal Keri et le Maga Sheretz c'est par rapport à leur Touma et pas par rapport aux Machanot qu'ils doivent quitter, alors que la comparaison entre le Boel Nida et le Tamemet c'est par rapport aux Machanot qu'ils doivent quitter. Métivé, la Gemara objecte à nouveau contre Rabbi Yochanan qui a dit que le Baal Keri doit quitter le Machane Leviya. Il y a une Braïta qui dit Metzora Chamour Mizav, Vezav Chamour Mitamemet. Le Metzora est plus grave que le Zav, et donc le Metzora doit sortir des trois Machanot et du Machane Shrina et du Machane Leviya et du Machane Israël, alors que le Zav ne doit quitter que le Machane Leviya, et le Zav est plus chamour que le Tamemet puisque le Zav quitte le Machane Leviya alors que le Tamemet ne quitte que le Machane Shrina. Yatsa Baal Keri chez Tamemet chamour menu. Ça exclut Baal Keri que le Tamemet est plus chamour que lui. Et la Gemara demande Ma Yatsa. Qu'est-ce que ça veut dire, il est exclu? Il est exclu de quoi? L'aviatza miklatzav ou balklatamemet. N'est-ce pas que ça veut dire que il est exclu de l'ensemble du zav qui doit quitter le machane leviya et qu'il fait partie de l'ensemble du tamemet qui doit quitter seulement le machane shrina? Et, d'après ça, l'explication de la braïta, c'est quand elle dit, chez tamemet ramon menu, deha tamemet ramon menu, ou mutar be machane leviya. Donc ça veut dire que c'est la justification de ce din-là. Pourquoi est-ce que le Zav fait partie de l'ensemble du Tamemet et qu'il ne quitte que le Machane Shrina, puisque le Tamemet est plus, c'est une Touma qui est plus importante que la Touma de Baal Keri, et malgré tout le Tamemet a le droit de rester dans le Machane Leviya et doit quitter seulement le Machane Shrina. Donc puisque le Baal Keri, sa Touma est moins importante que la Touma du Tamemet, lui aussi ne quitte que le Machane Shrina et n'a pas besoin de quitter le Machane Leviya. Donc c'est contraire à ce que Rabbi Yochanan a dit. Agmar répond l'eau. Non, c'est pas ça que la Breita veut dire. quand elle a dit que Yatsa Baal Kirish Tamemet Ramoumenu, ça veut dire Yatsa Mimachane Tamemet, Venichnas le Machane Zav. Il a quitté le camp du Tamemet et il est rentré dans le camp du Zav, ça veut dire qu'il a les mêmes dinim que le Zav, qui doit quitter aussi le Machane Levia. Et quand la Braïta dit Yatsa Baal Kirish et Tamemet Ramoumenu, chez Tamemet Ramoumenu, c'est-à-dire va falgav des Tamemet Ramoumenu, ou Moutar be Machane Levia, bien que le Tamemet, c'est une Touma plus importante que la Touma du Baal Kiri, puisque le Tamemet, il est tamé pendant 7 jours, et en plus, il faut l'asperger le 3e et le 7e jour, et alors que le Baal Kiri, c'est une Touma que Touma Teref seulement jusqu'au soir, et on voit que le Tamemet a le droit de rester dans le Machane Levia. Donc, on aurait pu penser que le Baal Kiri aussi ne doit quitter que le Machane Shrina, mais peut rester dans le Machane Levia. Et on nous dit non, malgré tout, il est sorti de ce klal de Tamemet et il est rentré dans le klal de Machane Zav. Ça veut dire que là, on ne suit pas la règle qu'on va d'après la Khumra de la Touma. Que plus la Touma est importante et plus il faut quitter de camp. Mais là, on dit les mailles des damelés, mais daminanlés. On le compare à ce qui lui ressemble, c'est-à-dire que comme il ressemble aux aves, donc on le met parce que c'est tous les deux une Touma qui provient de leur corps. Donc c'est pour ça que il fait partie de l'ensemble du Zav qui doit quitter aussi le Machane Levia. Donc ça veut dire que le Baal Kiri plus Hamour par rapport au Machanot que le Tamemet, bien que par rapport à sa Touma est inférieure à celle du Tamemet. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Parce que le Pasuk dit Vechol Zav, comme on avait vu plus haut, que le mot Vechol vient inclure le Baal Kiri, donc parce que le Baal Kiri lui ressemble. Tanetana Kame de Rav Yitzhak Baravdimi, un Amora a enseigné une Braïta devant Rav Yitzhak Baravdimi. C'est écrit dans la Braïta Viyatsa El Mechut Samachane. Donc c'est un pasouk qui parle du Baal Kiri. Et le pasouk dit Viyatsa El Mechut Samachane, il sortira à l'extérieur du Machane. Et la Braïta explique Zo Machane Shrina. Il s'agit du Machane Shrina. Lo Yavo El Toch Machane. La suite du pasouk c'est il ne viendra pas à l'intérieur du Machane. Zo Machane Leviya. Là il s'agit du Machane Leviya. Mikan le Baal Kiri Shiyatsa Chut Sishte Machanot. De là on apprend que le Baal Kiri doit sortir à l'extérieur de deux Machanot, et du Machane Shrina et du Machane Levia. Et on comprend pour l'instant que cette Braïta veut dire que quelqu'un qui, un Baal Kiri qui est devenu Tamé alors qu'il était dans la Hazara, il doit non seulement quitter le Machane Shrina, donc quitter le Bet Amigdash, mais il doit aussi quitter le Machane Levia, donc Arabaït. À Marlé, alors Rav Yitzhak Bar Avdimi a dit à cet Amora, à Katé Loaïlte Apikté, tu ne l'as pas encore fait rentrer dans le Machane Levia et tu lui en as déjà fait sortir. Ça veut dire que quand le Pasuk dit Lo Yavo El Torcha Machane, et la Breta a dit que ça veut dire qu'il ne rentrera pas dans le Machane Levia, ça suppose qu'il est à l'extérieur. Alors que on a parlé du cas où il était tamé, il est devenu tamé dans le Machane Shrina, dans la Hazara, et le début du Pasuk lui a dit il sortira à l'extérieur du Machane Shrina. Et le pasouk n'a pas encore dit qu'il devait sortir à l'extérieur du Machane Levia, qu'il y était rentré, qu'il devait en sortir. Et il nous dit déjà qu'il ne doit pas rentrer dans le Machane Levia, comme si il se trouvait déjà à l'extérieur du Machane Levia. Donc c'est pour ça que la Gemara demande, alors que tu ne l'as pas encore fait rentrer là-bas, tu l'en as déjà fait sortir puisque tu dis qu'il ne doit pas rentrer à l'intérieur du Machane Levia. Donc ça veut dire qu'il se trouve maintenant à l'extérieur. Donc, ça ne peut pas rentrer, c'est ce que Rav Yitzhak Bar Avdimi dit à cet Amora, ça ne peut pas rentrer dans les mots du Pasouk. L'Ishna Acharina, il y a une autre version qui dit que Rav Yitzhak Bar Avdimi lui a dit « Akate lo apikte ailte » « Tu ne l'as pas encore fait sortir et tu le fais déjà rentrer », ça veut dire que on ne lui a pas encore dit de sortir du Machane Levia et tu lui dis déjà de ne pas y rentrer. Donc, c'est-à-dire que tu parles de rentrer dans le Machane Levia alors que tu ne l'as pas dit encore d'en sortir. Ça revient au même. mais c'est une manière différente de présenter l'argument. Et là, Ima, donc Rav Yitzhak Bar Avdimi dit à cet Amora, il faut dire comme ça dans la Braïta, Mechutz la Machane, zo Machane Leviya. Quand le pasouk a dit Veyatsa el Mechutz la Machane, il s'agit du Machane Leviya, et on parle d'un Malkiri qui est devenu Tamé alors qu'il était dans le Machane Leviya, Lo Yavo el Tocha Machane, zo Machane Shrina. Et quand le pasouk dit Lo Yavo el Tocha Machane, là il parle de Machane Shrina. C'est-à-dire que quand il sort du Machane Leviya, qui est autour du Machane Shrina, il ne doit pas quitter le Machane Leviya pour rentrer dans le Machane Shrina, mais sortir à l'extérieur vers le Machane Israël, donc ne pas rentrer dans le Machane Shrina. Matkif la Ravina, Ravina objecte, Ima idi veidi le Machane Shrina, ve la avor ala ve ase velota ase. Donc il demande, par rapport à cette braïta, qui a dit que un Machane parlait de le Machane Shrina, et la suite du Passouk parlait du Machane Leviya, il demande, mais peut-être que les deux parties du Passouk parlent du même Machane, du Machane Shrina, et simplement le Passouk nous a dit qu'il y a une mitzvah tassé, une mitzvah lota tassé. Veyatsa el mechutz la machane, c'est mitzvah tassé, il sortira. Lo yavo el tocha machane, c'est le lota tassé. Agma répond, imken li makra veyatsa el mechutz la machane, velo yavo el toch. Si c'est comme ça, le passouk aurait dû dire, il sortira à l'extérieur du machane shrina, et il ne rentrera pas à l'intérieur, el toch ou el tocho, et un machane la mali. La deuxième fois où c'est écrit à Machane, à quoi ça sert? C'est superflu. Shmamina l'itello Machane Acheret. Donc, on déduit de là que on est venu indiquer qu'il doit sortir aussi d'un deuxième Machane, du Machane Leviya également. Ou Michui Kravav Vechule. On a dit dans la Mishnah que Michui Kravav est Doche Shabbat. Ça veut dire vider les intestins du Korban Pessah. C'est Doche Shabbat, on peut le faire pendant Shabbat. Et on avait expliqué que c'est pour ne pas que les intestins pourrissent avec les saletés qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de les vider. La Gemara demande Maï Michui Kravav. Quand on dit que on peut nettoyer les intestins, c'est quel nettoyage? Ravuna Amar, Ravuna a dit chez Menakvan Besakin qu'il les perce avec un couteau. Et d'après ça, ce que ça veut dire, Rashi explique que en le perçant avec un couteau, ça fait sortir les saletés, les excréments qui sont à l'intérieur, mais les excréments qui sont mous, parce que le terme de Michui, ça veut dire ici Michoui, c'est quelque chose qui est mou, qui est presque liquide, mais c'est pas quelque chose de dur. Donc en perçant les intestins, ça fait sortir tout ce qui est mou. Et Rashi rapporte une deuxième explication, que Michoui, c'est comme Timchet Zecher Amalek, donc c'est le fait de percer, c'est comme donc exterminer, c'est-à-dire abîmer, donc c'est ça que ça veut dire, Michoui Kravav. Chia Barav Amar, Chia Barav donne une autre explication que Ravuna, et il dit Shirka de Meaya. Shirka de Meaya, ça veut dire que c'est une sorte de glaire qui est collée contre les parois de l'intestin, et qu'on fait sortir en appuyant le Denafka Agav Durka de Sakina, donc qui sort quand on appuie dessus avec un couteau. Et donc d'après lui, ça veut dire que on peut même nettoyer plus que ce que Ravuna a dit, pas seulement laisser sortir les excréments qui sont mous, mais aussi détacher donc ces glaires qui sont accrochés à la paroi. Amar Abelazar a dit Maitama de Chia Barav. Donc c'est-à-dire que il demande comment est-ce que Chia Barav comprend ça du mot de Michouille, dirtiv, parce que c'est écrit dans le pasouk, Vechorvot Mechim Garim Yochelou. Alors, la Gemara demande Maï Mashma. Donc comment on comprend ici le rapport entre ce que Chia Barav a dit et ce passouk de Vechorvot Mechim Garim Yochelou. Alors on comprend que Mechim, c'est de là que provient le mot Michouï, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Kedemetargem Rav Yosef, comme Rav Yosef a traduit ce passouk, Venirsehen de Rechiaya Tzadikaya Arsenoun. Et les biens des Rechaim, c'est les Tzadikim qui les hériteront, qui en hériteront. Donc ça veut dire que le mot Mechim désigne les Rechaim, et donc ça veut dire que Mechim c'est quelque chose qui est repoussant, répugnant, qui est mauvais. Et donc ça fait référence à ces glaires qui sont accrochés à la paroi. Quand on dit Michouï, c'est quelque chose de repoussant. Donc c'est ces glaires qui sont collés contre la paroi. Et donc ça veut dire Vechorvot Mechim, les ruines, ça veut dire les maisons désertées par Mechim, par les Réchaïm, Garim Yochelou, Garim c'est les Tzadikim qui sont de passage dans le Olam Hazeh, ils les mangeront, ils en profiteront. La Gemara apporte maintenant le début du de ce pasouk. Verahu kevasim kedovram. Donc Verahu kevasim kedovram. Kevasim c'est les Bnei Israël. Ils vont paître kedovram. Qu'est-ce que ça veut dire kedovram? Amar menashia bar Yirmiya marav kamedu barbam. Menashia bar Yirmiya a dit au nom de Rav kamedu barbam, se dire comme on leur a promis par l'intermédiaire du Navi. Mai kamedu barbam. De quelle promesse il s'agit? Amar Abaye, Abaye a dit vechorvot mechim garim yochelu. C'est la suite du pasouk qui dit que les maisons désertées par les Rechaim, les tzadikim en profiteront. Amar le Rava. Alors Rava lui a dit Bishlam aiktiv chorvot kedeka amart. Si le pasouk avait dit chorvot mechim garim yochelu, alors on aurait pu comprendre, comme tu as dit, que c'est la suite, c'est l'explication de kedovram kamedu barbam, ce qu'on leur a promis. C'est quoi ce qu'on leur a promis? Deux points, c'est chorvot mechim garim yochelu. Ashta dirtiv ve chorvot. Mais maintenant que c'est écrit dans le pasouk ve chorvot avec un vav, milta chariti kamar, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un autre sujet, et c'est pas l'explication de kedovram kamedu barbam. Et là, Marava, donc Rava propose une autre une explication. Il dit que des Rav Chananel à Marav, c'est comme ce que Rav Chananel a dit au nom de Rav, des Amar Rav Chananel à Marav, parce que Rav Chananel a dit au nom de Rav, Atidin Tzadikim chez Chayu Atametim, les Tzadikim, les Atid Lavo, donc dans le Olam Abba, feront revivre les morts. Tivacha Verahu Kevasim Kedovram, ici c'est écrit dans le Pasuk Verahu Kevasim Kedovram, Urtivataam, et c'est écrit dans un autre pasouk, Yir'u Bashan Vegilad, qui met Olam. Donc, il y a, on fait une xerachava entre le mot Verahu qui est écrit ici, et le mot Yir'u Bashan Vegilad. Qu'est-ce que ça veut dire Yir'u Bashan Vegilad? Bashan c'est Elisha, Abba Mina Bashan. Bashan, ça fait référence au Navi Elisha, qui provient du Bashan. D'où est-ce qu'on sait ça chez Neymar? Ve'yana yve Shafat ba Bashan. Parce que c'est écrit dans le pasouk, Ve'yana yve Shafat ba Bashan, donc ils étaient tous les deux, ils habitaient le Bashan. Urtiv po Elisha ben Shafat, Asher Yasak Maim alide Eliyahu. Donc Elisha ben Shafat, c'était le fils de Shafat, qui était du Bashan, donc Elisha provenait du Bashan. Gilad c'est Eliyahu, et Gilad ça fait référence à Eliyahu, Shneimar veYomer Eliyahu atishbi mitoshavei Gilad veGomer. Donc on voit que Eliyahu habitait Gilad. Donc de cette Gzirachah on apprend que de la même manière que Elisha et Eliyahu Anavi ont fait Triat Ametim, là aussi, quand le pasouk dit Verahu kvasim kedovram, ça veut dire que les tzadikim feront revivre les morts. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, atidim tzadikim sheyechayu metim, les tzadikim vont les atid lavo faire revivre les morts. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit dans le pasouk, od yeshvu zekenim uzkenot bechorot Yerushalayim, veish mishanto beyado merov yamim. Donc il y aura des vieillards qui seront assis dans les rues de Yerushalayim, et chacun aura sa canne à la main, son bâton à la main, tellement ils seront âgés. Urtiv, et c'est écrit dans un autre pasouk, Vesamta Mishanti Alpenea Nahar, donc c'est Elisha qui s'adresse à Gehazi, qui l'envoie avec son bâton, et lui dit, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant, donc le fils de la Shunamite qui était mort, pour le faire revivre. Donc on voit que Mishenet fait référence à Triat Ametim. Oula ramé, oula opposé de psukim, ktiv bila amavet la netzach. C'est écrit d'un côté, oula amavet la netzach, la mort sera engloutie définitivement. C'est-à-dire que le malach amavet n'aura plus d'emprise. Urtiv, kianar ben mea tshana yamut. Mais d'un autre côté, c'est écrit dans un autre pasou, kianar ben mea tshana yamut. Ben mea tshana yamut, ça veut dire que, lorsque quelqu'un mourra à 100 ans, ça sera jeune. C'est-à-dire qu'ils vont vivre très longtemps. Puisque à 100 ans, ils seront considérés encore comme jeunes. Mais ils mourront finalement. Ma réponse là, Kasha, c'est pas contradictoire. Kan be Israël, kan be akum. Quand on a dit que il n'y aura plus de mort, c'est pour les Bnei Israël. Et le deuxième pasouk qui dit que à 100 ans ils seront encore jeunes, mais ça veut dire qu'ils vont mourir une fois. Il s'agit des goyim. La Gemara demande veodé kochavim aibahu atam. Et les goyim, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Puisqu'on parle du olam haba, qu'est-ce qu'ils font dans le olam haba? Dirtiv. Et la Gemara répond parce que c'est écrit dans le pasouk. Donc les goyim feront paître vos troupeaux, ou et les goyim seront vos laboureurs et vos vignerons. Donc ils seront là pour servir les Bnei Israël. Afrizda ramé, Afrizda opposé de psukim, k'tiv v'chafra alvana u'bosha achama. C'est écrit dans un pasouk que l'atid lavo, la lune va la lune et le soleil auront honte, ça veut dire que ils vont perdre leur éclat à cause de la lumière de la Shrina qui sera beaucoup plus forte. Urtiv, d'un autre côté, c'est écrit, Vaya Levana Kaorachama, que la lumière de la lune sera comme celle du soleil, Veorachama Yeshiv Ataim Shivatayamim. Et la lumière du soleil sera Shivatayim, ça veut dire 7 au carré, ça veut dire 49 fois, comme la lumière de 7 jours. Donc ça veut dire que 49 fois 7, donc 343, 343 fois plus que la lumière actuelle. Donc on voit que, au contraire, la lumière de la lune et du soleil vont se renforcer. Et ma réponse là, Kashia, c'est pas contradictoire. Kan la olam haba, kan limot haMashiach. Lorsqu'on a dit que ils n'auront plus d'éclat, c'est dans le olam haba. Là, effectivement, à côté de la lumière de la Shrina, ils n'auront plus d'éclat. Alors que quand on a dit leur lumière se renforcera, c'est à l'époque où le Mashiach viendra. Je me demande à Shmuel d'Amar, en ben olam azel imot haMashiach, et la shibud malchut bilvad maïka le memar. Mais d'après Shmuel qui a dit qu'il n'y a aucune différence entre le olam hazeh et la vie qu'il y aura après la venue du Mashiach, en dehors de Shemoun Malchouyot, ça veut dire qu'on ne sera plus assujetti au peuple, qu'on sera indépendant et qu'on sera dirigé par le Mashiach, mais sinon le monde continuera à fonctionner de la même manière. Donc comment est-ce qu'on va expliquer ce passouk? Parce qu'on ne peut pas dire que ce passouk fait référence à Yemot HaMashiach, puisqu'il n'y aura pas de différence. Ma réponse, il dit Védi l'Olam Haba. Les deux psukim parlent du Olam Haba, Bela Kasha, c'est quand même pas contradictoire. Kan be Machane Shrina, Kan be Machane Tzadikim. Lorsqu'on a dit que le soleil et la lune n'auront plus d'éclat, c'est dans le Machane Shrina, parce que justement il y aura la lumière de la Shrina. Alors que quand on a dit que la lumière du soleil et de la lune seront renforcées, c'est dans le Machane des Tzadikim. Rava Ramé, Rava opposé du psukim, Ktiv ani amit va'achaye. C'est écrit dans le pasuk, je ferai mourir et je ferai vivre. Et c'est écrit, Machatsi, j'ai frappé, Vanir pa, et je guérirai. Ashta, chouye, mechaye, mirpa, lo kol sheken. Et il demande, si déjà Kadosh Baruch Hu fait revivre les morts, comme c'est écrit, Ani, Amit, va, chaye, alors, à plus forte raison qu'il a la capacité de guérir ceux qui sont malades. Et là, Amar Kadosh Baruch Hu, ma, she, ani, me, mit, ani, mechaye, kebo, she, machatsi, vanir pa. Donc il explique que Akadosh Baruch Hu veut dire que c'est ceux que j'ai fait mourir que je ferai revivre, comme je vais guérir ceux que j'ai frappés, ceux que j'ai fait tomber malades. Ça veut dire qu'on aurait pu penser, si c'était écrit seulement Ani Amit Va'achaye, on aurait pu comprendre que ça veut dire que d'un côté Akadosh Baruch Hu fait mourir, et de l'autre côté il fait vivre, ça veut dire qu'il nourrit les vivants et qu'il fait naître des nouveaux bébés. Mais il ne s'agit pas de faire revivre ceux qui sont déjà morts. Donc c'est pour ça qu'il continue Machatzti va'anir pa, pour nous dire que de la même manière que Machatzti va'anir pa, il s'agit de la même personne qui était malade et qui va guérir, parce qu'on ne parle de guérison que pour quelqu'un qui était malade. Donc Ani Amit va'achaye aussi, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va faire revivre ceux qui sont déjà morts. Tanu Rabbanan, c'est dans une braïta. Ani Amit va'achaye. Donc la Bréta cite ce passouk qui dit Ani Amit Va'achaye, Yachol Mita Be'echad Be'chaim Be'echad, Keder She'olam Noeg. Donc on aurait pu comprendre justement que il s'agit de la mort pour une personne et la vie pour une autre personne, comme le fonctionnement du monde actuel. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent. Talmud Lomar Machatzti Va'anir Pa. Donc c'est pour ça que le passouk continue et dit Machatzti Va'anir Pa, Ma Maka Ufua Be'echad, de la même manière que la maka, la blessure, la plaie et la guérison, c'est chez la même personne. Afmita vechaim beechad. Pareil aussi pour la mort et la vie, c'est chez la même personne. Mikan tshuva laomrim en triat hametim min haTorah. Et ça, c'est un argument qui répond à ceux qui disent que la résurrection des morts n'est pas citée dans la Torah. Là, on voit que c'est cité dans ce passouk, puisque le passouk explique clairement qu'il s'agit de la même personne. Davar acher, autre interprétation. Ce passouk veut dire que lors de Triat HaMetim, ça va se passer en deux temps. Le premier temps, ceux qu'Akadosh Baruch Hu a tués, il les fait revivre, mais avec leurs défauts avec lesquels ils sont morts, les défauts physiques avec lesquels ils sont morts. Et après, dans un deuxième temps, Akadosh Baruch Hu va guérir ces plaies qu'il leur avait infligées. Et donc ça va se passer dans un deuxième temps, ils vont guérir de leur maladie, de leur mot.
Chalava. On a dit dans la Mishnah que brûler les graisses du Korban Pessah, ça repousse également Shabbat, donc on le fait même quand le 14 Nissan tombe un Shabbat. Tania, on en sait dans une bretta, Amar Rabbi Shimon a dit, Bo ure kama chaviva mitzvah beshaata, viens et constate combien est chère une mitzvah qui est faite en son temps. Share ekter chalavim veevarim ufdarim ksherim kol alayla. Parce que le fait de brûler les graisses et les membres du korban, et pdarim c'est aussi une partie des graisses, c'est valable toute la nuit. On peut le faire la nuit qui suit le sacrifice du korban. Et malgré tout, on n'attend pas jusqu'à la tombée de la nuit, même quand c'est un Shabbat, et on le fait pendant Shabbat. On apprend ça du passouk qui dit Olat Shabbat beShabbato alolat tamid. Donc à propos des korbanot de Shabbat, c'est écrit que on faisait les korbanot moussaf et le korban tamid de Shabbat pendant Shabbat, bien qu'on aurait pu attendre la tombée de la nuit pour brûler les graisses. Malgré tout, on le fait pendant Shabbat parce que c'est une mitzvah. Donc de le faire en son temps, parce que comme Rabbi Shimon dit, c'est la mitzvah en son temps est tellement chère qu'elle repousse Shabbat, même si on aurait la possibilité de le faire après Shabbat. Donc c'est pareil aussi pour le Korban Pessah. Har kavato va avato vechoulé. On a dit dans la Mishnah que le fait de porter le Korban Pessah dans la rue pour l'amener jusqu'à la Hazara, ou de l'amener de l'extérieur du Troum, et Khatichat Yavalto, le fait de couper la verrue qui est un moum, pour lui enlever ce moum et pour permettre de faire le Korban Pessah, ne repousse pas Shabbat, parce qu'on aurait pu les faire avant Shabbat. Ur minhu, et la Gemara objecte d'une Mishnah dans Maseret Iruvin, Chotrin yabelet bamigdash aval lo bamedina. La Mishnah dit que on peut couper une verrue au Bet Hamigdash, mais pas en dehors du Bet Hamigdash. On parle ici de la couper à la main, et donc le issur est un issur midérabanan, parce que c'est un chinouille. Donc il n'y a pas de issur minatora, mais seulement midérabanan. On a un principe de en shvut bamigdash, que les issur midérabanan ne s'appliquent pas au bet-amigdash. Donc on a le droit de le faire au bet-amigdash, mais pas en dehors du bet-amigdash. Ve'imbikli kan ve'kanasur. Mais si on le fait avec un instrument, c'est interdit et au bet-amigdash et à l'extérieur du bet-amigdash. Donc on voit d'ici que on a le droit de couper la verrue d'un korban au bet-amigdash. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah dit que notre Mishnah a dit que c'est interdit de le faire pour le korban pessah? Rabbi Lazar et Rabbi Yossi Bar Chanina. Donc il y a deux réponses de Rabbi Lazar et de Rabbi Yossi Bar Chanina. Chad amar idi ve idi beyad habelacha beyevesha. L'un a répondu que les deux Mishnayot parlent de couper la verrue à la main. Et là, notre Mishnah qui interdit de le faire, c'est parce que c'est une verrue qui est encore humide, alors que la Mishnah de Hérouvin qui permet de le faire, c'est pour une verrue qui est sèche. Donc comme elle est sèche, elle n'est plus considérée comme une partie de la bête, et donc il n'y a pas de issur, même pas midérabanan. Et c'est pour ça que la Mishnah le permet dans Maaseret Irouvin permet de le faire à la main. Par contre, lorsqu'elle est humide, c'est assur même à la main, parce qu'on aurait pu la faire la veille. On aurait pu le faire la veille, même si c'est un issur selon midérabanan, mais ça reste quand même interdit parce qu'on aurait pu le faire la veille. Et Rashi pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne répond pas simplement que la Mishnah de Hérouvin va d'après Rabbi Eliezer? On a vu que Rabbi Eliezer dans la Mishnah permet de couper la verrue pendant Shabbat, même pour le Korban Pessah. Et Rashi répond que si c'était d'après Rabbi Eliezer, si la Mishnah de Hérouvin allait comme Rabbi Eliezer, donc on ne comprendrait pas la suite de la Mishnah qui dit que si c'est avec un instrument, c'est interdit même au Beit HaMikdash, puisque Rabbi Eliezer pense que les marchirei mitzvah repoussent Shabbat, même si c'est une melacha min haTorah, comme c'est écrit dans la Maaseret Shabbat. Donc les préparatifs de la mitzvah, même quand c'est un issur min haTorah, ça repousse Shabbat, donc ça devrait être permis. Donc c'est pas possible de dire que la Mishnah de Eruvin va d'après Rabbi Eliezer. Donc c'est pour ça que on répond différemment et qu'on dit que ici on a parlé d'une verrue qui est humide, alors que là-bas on parle d'une verrue qui est sèche. Vechad amar, et l'autre a répondu, idi veidi belacha, et notre Mishnah et la Mishnah de Eruvin parlent d'une verrue qui est humide. Vela kashia, c'est quand même pas contradictoire. Ha beyad, ha bekli. Donc la Mishnah de Eruvin a parlé de couper à la main, et c'est pour ça qu'elle le permet, alors que notre Mishnah parle de couper avec un instrument, et c'est pour ça que c'est assourd. Mais effectivement, on aura le droit de le faire à la main. Et Rashi rapporte que la Gemara dans Eruvin repousse cette réponse en disant que dans notre Mishnah, on voit dans la suite de la Mishnah que Rabbi Eliezer fait un kal vachomer. Il dit ici déjà la Shrita qui est Asura min haTorah repousse Shabbat, à plus forte raison ce issur qui est Midrabanan. Donc on voit qu'il parle d'un issur des Rabbanan. Or s'il s'agissait de couper à l'aide d'un instrument, c'est un issur min haTorah. La Gemara demande Uman de Amar Abeya Dabikli, Maitama lo Amar, Idi Veidi Beyad, Velo Kashia, Abelacha Habeivesha. Celui qui a répondu que la différence entre notre Mishnah et la Mishnah de Hérouvin, c'est que la Mishnah de Hérouvin a parlé de couper à la main, alors que notre Mishnah a parlé de couper avec un instrument. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu comme l'autre, qui dit que les deux Mishnayot parlent de couper à la main, et la Mishnah de Hérouvin parle d'une verrue sèche, alors que notre Mishnah parle d'une verrue qui est humide. Amar Lecha, il te répondra, Yevesha Mifrach Pricha. Une verrue qui est sèche, elle s'effrite, elle ne se coupe pas, et donc on n'appellerait pas ça chotrine, on n'appellerait pas ça la couper. Il y en a qui disent même que si elle était sèche comme elle s'effrite, donc il n'y aurait pas de issur minatora, même avec un instrument, donc ça devrait être permis au Betamigdash. Ulman de Amar Idi Veidi Beyad, Vela Kasha Belacha Habeivesha. Et d'après celui qui a dit que les deux Mishnayot parlent de couper à la main, et la différence c'est que notre Mishnah parle d'une verrue humide, alors que la Mishnah de Hérouvin parle d'une verrue sèche. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu que les deux Mishnayot parlent d'une verrue humide? Et c'est quand même pas contradictoire, parce que la Mishnah de Hérouvin parle de couper à la main, alors que notre Mishnah parle de couper avec un instrument. Donc on pourrait dire que la Mishnah de Hérouvin parle aussi d'une verrue humide. Amar lecha, kli hakatane atam im bikli kan vekan asur. Alors l'Agma répond que il te dira que s'il s'agissait de couper avec un instrument, ça on l'a déjà. Ça veut dire si notre Mishnah parlait de couper avec un instrument, ça on l'a déjà enseigné dans la Mishnah de Hérouvin que si il s'agit de couper avec un instrument, même au Beit HaMikdash c'est asur. Donc notre Mishnah n'aurait pas eu besoin de le dire. Veidar. Alors l'autre, comment est-ce qu'il répondra à ça? Pourquoi est-ce qu'effectivement notre Mishnah en a parlé puisque c'est déjà écrit dans Hérouvin? Alors répond, Adé Katanekli, Acha, Plukta de Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Atale Hashmuinan. Pourquoi est-ce qu'on a parlé ici de l'interdiction de couper avec un instrument? C'est pour nous apprendre la marloquet de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua que Rabbi Eliezer permet même de cette manière. Amar Rabbi Eliezer, Umaim Shrita Vechule. Alors on a vu dans la Mishnah une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer a commencé par faire un kavach omer en disant si déjà la shrita qui est une melacha min haTorah repousse Shabbat, à plus forte raison ces choses-là qui sont midrabanan, c'est-à-dire kavato avato michutz satrum echatechat. Et Rabbi Yeshua lui a repoussé son kavach omer en disant mais je t'apporte une preuve de Yom Tov où les chachamim ont permis des melachot qui sont minatora, où les melachot qui sont minatora sont permises les tzorech ochel nefesh, mais pas celles qui sont midrabanan qu'on aurait pu faire avant Shabbat, avant Yom Tov. Et Rabbi Eliezer lui a répondu, lui a dit, mais comment est-ce que tu peux comparer le fait de préparer à manger pendant Yom Tov, qui est Réchout, qui n'est pas une mitzvah, avec la mitzvah de Korban Pessah? Donc, c'est logique que pour une mitzvah, on repousse un issur midrabanan, même si on ne l'a pas fait par rapport à Yom Tov, puisque là-bas c'est Réchout. Et la Gemara explique, Rabbi Yoshua l'etahameh, Rabbi Yoshua qui a repoussé le kavach omer de Rabbi Eliezer en apportant une preuve de Yom Tov, il suit son opinion, de'amar simchat Yom Tov nami mitzvahi. Parce que Rabbi Yoshua dit que la simcha de Yom Tov, le fait de manger pendant Yom Tov, qui est la joie de Yom Tov, c'est aussi une mitzvah. Et donc, si on a vu que malgré tout, ça ne repousse pas un issur midrabanan, donc ici non plus, pour le Coran Pessah, ça ne repousse pas un issur midrabanan. D'Etania, comme on l'enseigne dans une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, En lo la adam b'yom tov ela o chel v'shoteh o yoshev v'shoneh. Pendant Yom Tov, un homme peut soit manger et boire, soit s'asseoir et étudier pendant tout Yom Tov, même sans manger, il n'a pas d'obligation de manger. Rabbi Yoshua Omer, alors que Rabbi Yoshua dit, Chalkehu, chetzio la achila v'shtiya, v'chetzio le bet hamidrash. Il faut diviser Yom Tov en deux. La moitié de la durée de Yom Tov, il faut manger et boire, et la moitié être au Beit HaMidrash pour étudier et pour prier. Donc ça veut dire que Rabbi Yoshua pense que c'est une mitzvah, on a l'obligation de manger pendant Yom Tov, Donc puisque c'est une mitzvah, c'est pour ça que il a repoussé le Kal Vachomer de Rabbi Eliezer. Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, Ushneim Mikra Echad Darshu. Et tous les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ont interprété le même pasouk. Katuv Echad Omer, Atzeret Lashem Elokecha. Il y a un pasouk qui dit, Atzeret Lashem Elokecha, à propos de Shavuot, c'est donc Shavuot pour Akadash Baruch Hu. Ve'katuv Echad Omer, et un autre pasouk qui dit, Atzeret Tiyeh Lachem. Ce pasouk, c'est à propos de Shmini Atzeret. Il dit, Atzeret Tiyeh Lachem sera pour vous. Rabbi Eliezer Savar, Okulo Lachem, Okulo Lachem. Et Rabbi Eliezer pense que ça veut dire que c'est Okulo Lachem, ou entièrement consacré à Kadosh Baruch Hu, sans manger. Et on n'a pas besoin de, on n'a pas d'obligation de manger. Ou alors, si on veut, ça peut être Kulo Lachem, ça peut être entièrement pour vous, ça veut dire manger et boire pendant Yom Tov. Et Rabbi Yoshua Savar, Chalkehu, Chetsu Lachem, Chetsu Lachem. Et Rabbi Yoshua pense que ces psukim nous indiquent qu'il faut et consacrer la moitié du temps à Kadosh Baruch Hu et la moitié pour vous, ça veut dire pour manger et boire. Abam Siman. Donc le Siman des, on va parler de certains jours où il y a une mitzvah de manger, et le Siman de ces jours-là, c'est Ain Bet Mem. Abam, c'est Ain, c'est Atzeret, Bet, c'est Shabbat, c'est la deuxième lettre de Shabbat, et Mem, c'est la dernière lettre de Purim. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a dit, Akol modim ba'atzeret ba'inan namilachem. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer est d'accord, qu'à Shavuot, il faut aussi manger, il faut aussi consacrer une partie à la joie, au plaisir de Yom Tov en mangeant. Maïta Ama, pour quelle raison? Yom shenitna bo Torah hu, parce que c'est le jour où la Torah a été donnée, donc il faut montrer que on est content d'avoir reçu la Torah, que c'est pas un fardeau, que c'est pas quelque chose qui nous pèse. Et donc on montre notre joie en mangeant. Amar Rabba a dit, Akol modim be Shabbat de Bainan Aminachem. Rabba dit que tout le monde est d'accord que Shabbat, il faut aussi consacrer une partie pour manger. Maïta Ama, pour quelle raison? Vekarata la Shabbat Oneg. C'est écrit dans le Pasuk, Vekarata la Shabbat Oneg. Tu nommeras le Shabbat Oneg un moment de plaisir. Donc ça veut dire en mangeant. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef a dit, Akol modim be Purim de Bainan Aminachem. Tout le monde est d'accord, mais Rabbi Eliezer est d'accord que à Purim il faut consacrer une partie du temps à manger. Maïta Ama, pour quelle raison? Yeme Mishte Vesimcha Ktiv Be, parce qu'il est écrit à propos de Purim dans la Megillah. Yeme Mishte Vesimcha, des jours de festin et de joie. Donc il faut manger. Mar Bered Ravina Kula Shata Vayati Vetaanita Levar Me'atzarta Ufuria Umale Yoma Dekipure. Mar Bered Ravina, pendant toute l'année il jeûnait, en dehors de Shavuot, Purim, et la veille de Yom Kippour. Il y a une machloquette, est-ce que il jeûnait Shabbat aussi ou pas? Mais en tous les cas, les autres jours, il jeûnait en dehors de Shavuot, Purim, et la veille de Yom Kippour. Et la Gemara explique, « Atzeret yom shenitna bo Torah ». Shavuot, il mangeait parce que c'est le jour où la Torah a été donnée, donc pour montrer sa joie d'avoir reçu la Torah. « Puria yom mishtev et simcha ktiv ». Purim, parce que c'est écrit Yom Mishtev et Simcha, c'est le jour de festin. Ma'ale Yoma de Kippouré, et la veille de Yom Kippour, de Tane Chia Barav Midifti, parce que Chia Barav Midifti a enseigné une braïta qui dit, Ve'initem et Nafshotechem, Betish'a la Chodesh. C'est écrit à propos de Yom Kippour, vous jeûnerez le 9 du mois de Tishré. Ve'chi Betish'a Mitanim, Ve'alo Ba'atsara Ba'asiri Mitanim. Est-ce que on jeûne le 9 Tishré, mais c'est le 10 Tishré qu'on jeûne? Et là, l'Omar Lecha, le pasouk qui est venu te dire, Kol ha'ochel veshoté v'tish'a bo, tout celui qui mange et qui boit le 9 tishré, ma'aleh alav ha'katuv kelu mit'ane tshi'i va'asiri. Le pasouk considère comme s'il avait jeûné et le 9 et le 10 tishré. Alors, Rashi rapporte que dans Yoma, la Gemara dit que cette dracha est contraire à celui qui pense que il faut rajouter, donc il faut jeûner un peu avant l'entrée de Yom Kippour, donc la mitzvah de Tosefet Inouï. Donc il dit que ça va d'après celui qui pense que il n'y a pas de Tosefet Inouï, parce que celui qui pense qu'il y a une Tosefet Inouï, qu'il faut faire rentrer Yom Kippour un peu plus tôt avant que ce soit déjà le 10, donc il l'apprend de ce pasouk, Vinitem et Nafshotechem Betish'a la Chodesh, c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à jeûner le 9. Ou une autre proposition, c'est-à-dire que même celui qui dit que Mosifin Michol à la Kodesh, qu'il faut recevoir Yom Kippour plus tôt, mais il apprend d'un autre passouk et pas de ce passouk. Donc, de ce passouk, on apprend qu'il y a une mitzvah de manger et de boire le 9 Tishri, et que Akadosh Baruch Hu le considère comme si on avait jeûné. C'est-à-dire que bien que on mange, donc c'est facile et c'est un plaisir, mais malgré tout, c'est considéré comme un jeûne qui est difficile et on reçoit la même récompense. Alors, Rabbeinu Yona explique dans Shaarei Teshuva, il rapporte trois raisons pourquoi est-ce que il y a cette mitzvah de manger la veille de Yom Kippour. Il dit premièrement parce que celui qui mange et qui boit le 9 Tishri, c'est-à-dire que il montre qu'il est joyeux, que le moment de s'accaparer de son pardon arrive. Donc ça veut dire que il est soucieux pour ses avérotes et il se réjouit de voir que il va pouvoir maintenant les nettoyer et avoir une capara. Deuxième raison, il dit parce que tous les Yom Tov, il y a une Seouda pour la joie de la mitzvah. Et là, on peut pas le faire pendant Yom Kippour, qui est aussi un Yom Tov. Donc, on fait une Seouda pour la Simcha de la mitzvah la veille de Yom Kippour. Et troisième raison, on mange la veille de Yom Kippour pour prendre des forces, pour pouvoir faire les tfilot et faire tshuva pendant Yom Kippour, donc pour avoir des forces pour ça. La Gemara dit Rav Yosef Yomad Atzarta Amar, Rav Yosef le jour de Shavuot disait Avdeli Igla Tilta, faites-moi un veau qui est le troisième à être né de cette vache, donc c'est le meilleur, les deux premiers sont moins bons parce que la bête a moins de force, et donc il demandait de lui faire quelque chose de particulier pour Shavuot. Amar, et il expliquait ça en disant, Ilo ayoma de kagarim, kama Yosef ika beshuka. Si ce n'était ce jour qui, grâce auquel j'ai étudié la Torah et j'ai grandi, combien de gens qui s'appellent Yosef il y a dans la rue? Ça veut dire j'aurais été comme n'importe quel autre Yosef. Donc c'est grâce à Matan Torah que j'ai grandi. Rav Shechet kol tlatin yomin mader le talmudé, vetale vekae beivra de dasha. Rav Shechet, tous les 30 jours, il répétait son étude et il s'appuyait contre le verrou de la porte. Va'amar chadai nafshai, chadai nafshai, lach karai, lach tanai. Et il disait, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. C'est pour toi que j'ai étudié les psukim. C'est pour toi que j'ai étudié les mishnayot. Et la Gemara s'étonne, elle dit, ini, est-ce que c'est vrai que quand on étudie pour soi? Est-ce que c'est seulement celui qui étudie la Torah qui en profite? Mais ça profite à tout le monde. Ve'amar Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar a dit, il m'allait Torah lo nitkayimu shamayim va'aretz, si ce n'était l'étude de la Torah, le ciel et la terre ne seraient pas maintenus. Chez Nehemar, parce qu'il est dit dans le pasouk, kimlo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz osamti. Si ce n'était mon alliance, le jour et la nuit, donc ça fait référence à l'étude de la Torah à propos de laquelle s'écrit Vagitabo yomam valayla, je n'aurais pas mis en place les lois de la nature du ciel et de la terre. Donc, la Gemara demande, on voit que, en fait, ça permet de maintenir le monde, donc ça profite à tout le monde et c'est pas seulement pour soi. La Gemara répond, mais Ikara Kavidini Shadata Nafshe Kavid. Mais quand un homme commence à étudier, il étudie dans son propre intérêt. Amar Ravashi. Ravashi revient donc à la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua de notre Mishnah et il dit, Ulmaï de Kamar Rabbi Eliezer Nami Yom Tov Reshut Itle Picha. Même d'après Rabbi Eliezer qui pense que Yom Tov c'est seulement Reshut et c'est pas une mitzvah, contrairement à Rabbi Yoshua, comme on a vu plus haut, qui pense que c'est une mitzvah de manger pendant Yom Tov, mais même d'après Rabbi Eliezer qui pense que c'est Reshut, on peut quand même repousser son Karachomer. C'est-à-dire bien que Rabbi Yoshua, quand il a repoussé le Karachomer de Rabbi Eliezer, on a dit que Rabbi Yoshua a suivi son opinion parce que lui pense que c'est une mitzvah, donc il pense que c'est comparable au Korban Pessah, mais même selon Rabbi Eliezer qui pense que c'est facultatif, c'est pas obligatoire, mais on peut quand même repousser son Karachomer. Donc Rabbi Eliezer avait fait un Karachomer de dire, si déjà la Shrita qui est Minatora, qui a un issur Minatora, repousse Shabbat, la Shrita du Coran Pessah, à plus forte raison, les choses qui sont à source à des Rabbanan. Et on peut repousser en disant, Uma Yom Tov Sheitir Bo Melacha Shel Reshut, Lo Etir Shvut Sheima, si déjà Yom Tov, qui est un jour qui est plus calme que Shabbat, puisqu'on voit qu'on a permis de faire une Melacha Minatora, même si c'est seulement pour Reshut, même si c'est pas pour une mitzvah, c'est pour manger, qui n'est pas une mitzvah d'après Rabbi Eliezer, malgré tout, on n'a pas permis un issur midrabanan, bien que Yom Tov est calme. Shabbat shelo itirba et la melacha shel mitzvah, enodin shelo tatir shvut sheima. Alors Shabbat, on n'a pas permis de faire une melacha qui est pour reshut, pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah. On a permis que une melacha de mitzvah pour le Korban Pessah par exemple. Donc la plus forte raison que on ne permettra pas un issur midirabanan. Rabbi Eliezer, shvut de mitzvah adifle. L'Agmara dit, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il va répondre à cet argument? Il va dire, mais malgré tout, un issur midirabanan qui est pour une mitzvah, c'est mieux, c'est plus important que un issur midirabanan qui est fait pour reshut. Donc comme Yom Tov, le fait de manger pendant Yom Tov, c'est pas une mitzvah. Donc les Chachamim ont interdit même les issurim derabanan, mais ils ont interdit les issurim derabanan, mais Shabbat, qu'il s'agit d'une mitzvah, on est en train de parler du Korban Pessah, donc les Chachamim n'ont pas interdit leur issurim derabanan, et donc la mitzvah repousse Shabbat même pour les issurim derabanan.